savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Et pardon pour cette voix un peu entamée, très entamée même par un virus hivernal. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, je crois que je vais être votre porte-voix Elisabeth, en tout cas pour ce début d'émission.
Ce serait pas mal.
Et pour vous annoncer notre invitée dans une vingtaine de minutes, c'est une grande actrice. Elle est mercredi prochain à l'affiche de Gloria Mundi de Robert Guédiguian, dont elle est depuis longtemps la compagne de route. J'ai nommé Ariane Ascaride. À l'affiche de notre cinéma et également ce samedi, un film à l'affiche mercredi prochain, c'est Proxima d'Alice Vinocourt.
Tous les cinémas du monde sur RFI avec Unifrance Film, l'actualité du cinéma français à l'international. www.unifrance.org.
Et on commence par notre traditionnel tour du monde de la planète cinéma. Première étape, Bruxelles, la capitale de la Belgique, où des affiches hostiles à Roman Polanski ont été placardées cette semaine sur les façades de 3 cinémas bruxellois qui programment son film J'accuse. J'accuse, on vous en a déjà parlé dans l'émission, c'est un film historique qui revient sur l'affaire Dreyfus et l'antisémitisme de la société française du début du XXe siècle. Et depuis une nouvelle accusation, la cinquième, de viol sur jeune fille, la question revient en France et donc en Belgique sur la pertinence de programmer ou d'aller voir ce film de Roman Polanski. Roman Polanski qui devrait être suspendu de l'ARP, l'Association des réalisateurs de films, qui a pris de nouvelles dispositions pour traiter le cas des cinéastes suspectés ou accusés de violence contre les femmes. Pendant ce temps, en France, J'accuse est en tête du box-office avec plus de 500 000 spectateurs. Après la Belgique, on part au Maroc, à Marrakech, où s'ouvre vendredi prochain la 18e édition du Festival international de cinéma.
I am Detective Lieutenant Elliot, and this is Trooper Wagner.
We just want to ask a few questions.
We understand the night of his demise. The family have gathered to celebrate your father's 85th birthday. How was it, by the way?
The party? Pre my dad's death? Oh, it was great.
Voilà, en ouverture du festival de Marrakech, les festivaliers découvriront « À couteau tiré » de Rian Johnson, dont on vient d'attendre la bande-annonce. C'est une enquête policière avec un casting 5 étoiles et notamment Daniel Craig en Hercule Poirot moderne qui mène l'enquête pour savoir qui a tué un écrivain célèbre. Les spectateurs à Marrakech pourront également découvrir d'autres très bons films projetés en séance de gala, A Marriage Story de Noah Baumbach, The Irishman de Martin Scorsese, de film Netflix, It Must Be Heaven du palestinien Elia Souleyman, et puis 3 films du Maghreb dont on a parlé ou dont on vous parlera dans tous les cinémas du monde. Noura Rêve de Hinde Boujema, Adam de Mariam Touzani, où on clôture le 7 décembre prochain un film égyptien avec un casting impressionnant de stars de la jeune génération. Il s'agit de Ras El Sana de Sakhar. Le cinéma africain, on en parle aussi avec un festival en ligne, c'est CineWax, un festival dont RFI est partenaire. C'est le fruit d'une initiative inédite visant à promouvoir le cinéma africain à travers une programmation originale. C'est la 2e édition de ce festival. Elle a pour thème « Le rêve africain ». Point d'interrogation, à voir donc jusqu'au 15 décembre via la plateforme du CineWax OAFF, 30 films exclusifs de réalisateurs et réalisatrices africains et des diasporas. On part à Cuba où s'ouvre le vendredi 5 décembre le festival de cinéma latino-américain. On pourra y découvrir notamment le nouveau film du français Olivia Sayas, Cuban Network, sur l'histoire vraie d'un réseau d'espions cubains aux États-Unis.
Usted es Olga Salanueva, la esposa de René González.
Ay, no me vaya a decir que le pasó algo.
Somos del Ministerio del Interior.
¿Pero qué tuvo? ¿Un accidente? ¿Está vivo?
Él está vivo, no está herido.
Voilà, dans Cuban Network, Olivia Sayas met en scène Penélope Cruz, Edgar Ramirez, Wagner Moura et Gael Garcia Bernal. Donc dans cette histoire vraie d'un groupe de 5 espions cubains installés à Miami au début des années 90. Ils ont été arrêtés, condamnés en 2001 pour espionnage, libérés une douzaine d'années plus tard et ils sont connus, hein, et reconnus, célébrés à Cuba comme les 5 héros. Et on reste à Cuba, où la production cinématographique indépendante a été légalisée. Le gouvernement autorise désormais les artistes du cinéma cubain à travailler officiellement, légalement. Voilà, ça fait longtemps que les indépendants attendaient cette décision et s'en réjouissent évidemment. Alors le débat sur la légalisation du cinéma indépendant a duré plus d'une décennie sur l'île. Mais cela ne signifie pas pour autant liberté de création. C'est un reportage à La Havane de notre correspondante Domiti Piron.
Yuli, c'est l'histoire du danseur étoile cubain Carlos Acosta, un film diffusé dans les salles du monde entier en 2019. Un traducteur raconte l'histoire des enfants de Tchernobyl soignés à Cuba et ce film a été choisi pour représenter le pays aux Oscars en 2020. Deux exemples de succès récents et de coproduction internationale avec deux sociétés de production indépendantes cubaines, alors même que le nouveau décret cinéma n'était pas encore à l'ordre du jour. Preuve que le cinéma indépendant cubain n'a pas attendu d'être légalisé pour ce faire. Le célèbre acteur de Fresa y Chocolate, Jorge Perugoria, a joué autant de films officiels qu'indépendants.
Le cinéma indépendant à Cuba était un fait, une réalité, mais il n'entrait pas dans un cadre légal et juridique. Tout le monde faisait des films en dehors de la loi. Mais il y a toujours une complicité avec l'institution, notamment pour ce qui était des autorisations de tournage.
Depuis 1950, la loi du cinéma cubain reste inchangée. C'était l'une des premières mesures mises en place par la révolution de Fidel Castro, avant même la réforme agraire. Officiellement donc, tout film passé par l'ICAIC, l'Institut cubain de l'art et l'industrie cinématographique. Une institution qui est désormais chargée du registre des indépendants. Depuis fin septembre, les professionnels indépendants du cinéma cubain doivent s'inscrire au registre officiel. Ils ont également la possibilité d'ouvrir un compte bancaire pour un film et peuvent accéder à un fonds de soutien du cinéma cubain. Mais le montant de cette enveloppe reste inconnu, comme les membres du comité de sélection. Pour le critique et professeur de cinéma Gustavo Arcos, ce nouveau processus de production ne garantit pas pour autant une réelle indépendance des films.
À Cuba, les cinémas ne sont pas privés. Les cinémas sont contrôlés par le distributeur national de l'ICAIC. Et très rarement, les projets qui ne sont pas approuvés le sont pour des raisons artistiques. Donc au final, la question qui se pose, c'est si on respecte toutes ces nouvelles règles, pourquoi n'aurait-on pas le droit à un espace de diffusion ?
Si certains cinéastes indépendants se réjouissent donc d'entrer dans la légalité avec ce nouveau décret qui facilitera sans doute les tournages, d'autres émettent effectivement des critiques. Pour la productrice Claudia Calvino, ce décret ne résout pas une question fondamentale. Elle a produit les films de Carlos Lechuga, dont le dernier Santa y Andrés a été censuré à Cuba.
Il y a une discussion idéologique, un débat qu'il faut ouvrir sur la liberté de création et l'expression libre de l'art, et peut-être même au-delà.
Ce décret est considéré de fait comme le préambule d'une nouvelle loi sur le cinéma à Cuba.
Voilà, c'était un reportage à La Havane de notre correspondante Domiti Piron. 15 nouveaux films cette semaine sont à l'affiche dans les salles françaises. Les Misérables de Ladjli, hein, c'est vraiment le film choc. C'était notre invité Ladjli la semaine dernière et vous pouvez réécouter l'émission dans laquelle il commente séquence par séquence les 15 premières minutes de son film en podcast ou sur notre site internet www.rfi.fr. Cette semaine aussi dans les salles, un gros déjà succès annoncé au box-office, c'est La Reine des Neiges 2, 6 ans après le triomphal premier épisode de cette franchise Disney, avec une héroïne célibataire et de femme forte, la reine scandinave Elsa. Donc à voir dans les salles, et je crois que le premier jour, le démarrage est phénoménal aussi en France. Je crois que c'est le meilleur démarrage d'un film d'animation Disney de l'histoire. À signaler, ça c'est, je me fais le porte-voix d'Elisabeth qui l'a vu, et vous recommande Terminal Sud de Rabah Ammer Zaimesh,
qui nous entraîne au cœur d'une guerre civile dans un pays qui pourrait bien être l'Algérie des années 90, sur les pas d'un médecin joué par Ramzi Bedia, hein, le Ramzi du duo Eric et Ramzi. Et puis, on prend de l'avance cette semaine, on va parler de Proxima d'Alice Vinocourt. Proxima, c'est un peu le pendant féminin du First Man de Damien Chazelle. On y suit la préparation d'une astronaute, en l'occurrence Eva Green, choisie pour partir en mission un an dans l'espace.
5, 4, 3, 2, 1.
I never thought that one day I'd be saying the last mission before Mars. And yet here we are, making last preparations for the long journey.
T'entends pas la lumière, hein?
Aïe, aïe, Captain.
Tu savais que ta maman allait partir un jour? Ça te fait très peur, un peu peur.
Un peu peur.
Alors, le problème de cette astronaute, Sarah, c'est qu'elle va devoir laisser sa fillette de 7 ans. Donc pendant un an, elle ne pourra pas la voir, elle pourra à peine communiquer avec elle puisqu'elle sera dans l'espace. Alors, être mère et astronaute, c'est ce dilemme, ou pas d'ailleurs, qui a passionné la réalisatrice Alice Vinocourt, que j'avais pu rencontrer à Toronto en septembre dernier, puisque son film y était projeté et a d'ailleurs décroché une mention spéciale.
Pour moi, toute l'idée du film, c'était... deux choses. Déjà, la première, c'était de montrer une super-héroïne, une astronaute, mais qui était aussi mère, et d'avoir ces deux qualités dans une même personne. C'est quelque chose que le cinéma montre pas souvent, comme si en fait c'était des choses incompatibles. En fait, par exemple, Catwoman n'a pas d'enfant. Les héroïnes n'ont pas d'enfant. En fait, c'est comme si c'était quelque chose qui allait les distraire de leur mission. Et moi, ce que je pense, c'est que dans la vie, les femmes ont des enfants, travaillent. Et donc voilà, je voulais parler en fait de cette situation et de ce que raconte le film, c'est l'histoire d'une libération en fait, l'idée qu'on peut faire les deux en fait, même si c'est difficile et il n'y a pas de mère parfaite, comme le dit Matt Dillon. Mais après ça, l'autre chose, c'était de montrer aussi toute cette préparation, toutes ces années d'entraînement qui sont la plus grande partie en fait de la vie des astronautes. Il y en a même qui partent jamais en fait, qui se préparent toute leur vie et qui sont jamais assignés à une mission. Au cinéma, les problèmes arrivent dans l'espace, mais dans la réalité, les problèmes arrivent pendant la préparation. On a eu cette énorme chance de tourner grâce à l'Agence spatiale européenne, de tourner dans les vrais décors, dans les vrais centres d'entraînement spatiaux, des lieux dans lesquels il n'y avait jamais eu aucun film. Donc il y avait quelque chose de très excitant pour nous en fait, de pouvoir entrer dans ces mêmes Star City, qui est cette ville fermée près de Moscou. Grâce aussi à l'agence spatiale russe, on a pu aller, c'était des bases militaires, il faut passer des checkpoints, tout ça est très sécurisé et très secret. Et on a pu tourner un vrai décollage à Baïkonour, donc voilà, il y a tout cet ancrage en fait. Normalement dans les films, il y a une représentation comme ça très d'hypertechnologie, mais qui est en fait un petit peu artificielle par rapport à la réalité de ce que vivent les astronautes.
Effectivement, il y a un aspect quasi-documentaire,
oui, voilà.
Très très réaliste. Hein.
Oui, en fait, j'ai travaillé aussi avec Thomas Pesquet, qui était le parrain du film, Claudie Nieré, la marraine du film. Moi, j'ai pris un train quand j'ai commencé à écrire pour Cologne, je me suis installée dans les bureaux de l'Agence spatiale européenne, et puis j'ai vraiment suivi les travaux avec les entraîneurs qui ont aussi participé à l'écriture, des astrophysiciens. Donc l'idée, c'était vraiment... toute cette chose très immersive en fait, pour montrer finalement tout ce que ça montre, et c'est un peu le paradoxe des astronautes, c'est la fragilité. Nous, au cinéma, on nous représente l'image des astronautes comme des super-humains, etc. Mais en fait, les astronautes, la réalité, c'est qu'ils font l'expérience de la fragilité et de la vulnérabilité humaine, parce que quand on est confronté à l'espace, en fait, nous, on est vraiment des terriens, on est fait pour vivre sur Terre, nos corps sont faits pour vivre sur Terre. En fait, les conditions de vie dans l'espace sont très, très dures, en fait. Nos cellules vieillissent, on grandit de 3 à 4 cm, ça fait mal, on perd notre sens de l'équilibre. En fait, c'est que des choses auxquelles les astronautes doivent s'entraîner pour finalement devenir des sortes de space person, Et voilà, en fait, c'est pas facile de quitter la Terre. C'est pas si simple que ça en a l'air.
Est-ce que vous, comme le personnage principal joué par Eva Green, vous rêviez d'espace toute petite? Ou est-ce que vous êtes intéressée à ce sujet en préparant le film, parce que vous vouliez surtout, votre ambition, c'était de filmer cette super-héroïne au quotidien?
C'est un petit peu la rencontre de plusieurs choses, ce film. Déjà, en fait, depuis que je suis petite, je suis fascinée par l'espace, mais c'était plus comme une sorte de fascination poétique, de regarder les étoiles, écrire des poèmes, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à enquêter sur ce monde et à découvrir ce monde réellement, j'ai été complètement encore plus fascinée, mais c'était un autre type de fascination. De rencontrer en fait tous ces entraîneurs, tous ces astronautes, en fait même sur cette fragilité même des installations, les chambres qu'on voit dans le film qui sont dans l'immeuble qui s'appelle le Profilactorium, qui est l'endroit où habitent les astronautes, qui sont des chambres très désuètes en fait. On n'imagine pas que des astronautes peuvent vivre là. Quand on a vu les images de Thomas Pesquet qui revenait sur Terre, qui sort du Soyouz, on dirait qu'on ouvre une boîte de conserve. Enfin, il y a toute une chose comme ça qui, pour moi, je trouve très émouvante par rapport à l'idée de la fragilité humaine, de tout ça. Et puis encore aussi, ce dont je voulais parler, c'était vraiment d'être une sorte de célébration de la Terre, quoi. Par exemple, l'odeur des arbres, le bruit des oiseaux, toutes ces choses qui n'existent pas dans l'espace, qui manquent aux astronautes quand ils ne sont pas là. Par exemple, dans le film, on voit un astronaute qui dit qu'il prend... qu'il enregistre les bruits de la forêt pour écouter dans l'espace. C'est quelque chose... J'ai recueilli vraiment beaucoup de témoignages de vrais astronautes qui m'ont raconté, en fait. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'assez puissant dans cette idée de dire au revoir à beaucoup de choses, dire au revoir à la Terre, aux gens qu'on aime, à son propre corps aussi, puisqu'il devient différent.
C'est intéressant parce que ce film, vous l'avez, j'imagine, commencé à l'écrire, à le mettre en chantier avant MeToo.
Oui.
Et on le voit complètement en phase, il y a un alignement,
oui,
des planètes pour filer la métaphore.
En fait, je pense qu'il est temps, en fait, que les... On parle beaucoup de female gaze et je pense que ça s'inscrit dans cette idée, en fait, de montrer...
Le regard féminin.
Le regard féminin, pardon. Le regard féminin et je pense que ça s'inscrit dans cette idée de montrer cette partie inconnue de la vie des femmes, comment elles gèrent carrière et vie personnelle avec leurs enfants. Je pense que les femmes elles-mêmes avaient jusqu'à présent honte d'en parler, parce qu'en fait elles savaient, évidemment l'espace c'est quelque chose d'un peu extrême, comme on dit, bigger than life, mais pour moi ce dont je voulais parler c'était des femmes en général, dans les entreprises, dans leur vie quotidienne. Je pense que les femmes en fait ont intégré l'idée que, en fait, dans leur société, par exemple, dans le monde du travail, si elles disent qu'elles ont des enfants, on va penser qu'elles sont moins compétitives. Le fait d'avoir des enfants est associé à une faiblesse. Et dans ces situations hyper compétitives, elles savent qu'elles ne doivent pas en parler. Par exemple, il y a une entraîneuse de l'Agence spatiale européenne qui m'avait dit que, en fait, les hommes... astronautes parlaient tout le temps de leurs enfants. C'était la première chose qu'ils faisaient quand ils arrivaient. Ils montraient des photos de leurs enfants. Ils étaient tellement fiers, en fait, de dire en fait, moi, je suis arrivée à ce niveau de qualification et en plus, j'ai une famille. Mais par contre, les femmes, en fait, elles entraînaient une femme astronaute et à la fin de l'entraînement, elle s'est rendue compte qu'elle avait des enfants et elle n'en avait parlé à personne. Personne n'était au courant. Et voilà, c'est cette espèce de silence, j'ai l'impression qu'il faut rompre aujourd'hui. Et en fait, ce que raconte le film, c'est que c'est possible de faire les deux, même si on montre que c'est difficile. C'est plus dur pour les femmes, plus dur parce qu'en fait, il faut toujours montrer qu'elles doivent faire le travail des hommes, plus, un peu plus, pour montrer qu'elles sont capables, pour vivre en fait avec cette culpabilité quand on fait une carrière. Il y a cette espèce de construction sociale de la culpabilité que les femmes elles-mêmes ont intégrée, qui est l'idée que, en fait, on devrait choisir entre sa carrière ou avoir des enfants. Et si on a fait ce choix, voilà, on est une mauvaise mère. Mais en fait, la mère parfaite, ce que dit Matt Dillon dans le film, n'existe pas. Pour moi, ça doit être vraiment, le film, ça devait être une histoire comme ça de libération, en fait, de quelqu'un qui arrive à toucher les étoiles, en tout cas, à accomplir son rêve. Et dans ce sens-là, il y a aussi l'idée, Proxima en espagnol, ça veut dire aussi la prochaine, en fait, par rapport à sa fille. Il y a aussi l'idée de la transmission, de montrer que oui, c'est possible. Et aussi de montrer aux autres femmes que c'est possible, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'auto-censurent même, qui n'osent pas entreprendre les carrières auxquelles elles rêvent, parce qu'elles ont l'impression qu'en fait la société leur impose ce choix. J'ai l'impression que le fait de parler de ça, c'est aussi de dire qu'on n'est pas seul avec ça, et que en fait, cette dissimulation, pour moi, elle ne doit plus exister, en fait. Et le cinéma doit s'en emparer. Il y a aussi une autre difficulté, c'est que ces femmes doivent entrer, en fait, dans un monde d'hommes, pensé par les hommes, pour les hommes. Par exemple, les combinaisons spatiales, en fait, elles sont designées pour les hommes, c'est-à-dire que les hommes sont plus forts au niveau des épaules, alors que les femmes sont plus fortes au niveau des hanches. Mais quand elles deviennent astronautes, elles doivent s'entraîner avec ces combinaisons, donc devenir plus fortes des épaules. Donc voilà, c'est plus dur pour elles, évidemment. Donc voilà, enfin, c'est toutes ces choses-là auxquelles forcément les femmes sont confrontées, mais voilà, l'idée c'était de faire un film de libération.
Alice Vinocourt qui nous présente son nouveau long métrage, le formidable Proxima, en salle mercredi prochain en France. Vous êtes bien sûr RFI, on fait une pause musicale en compagnie d'Isia qui vient de sortir un nouvel album et on se retrouve dans quelques minutes avec notre invité Ariane Ascaride, un entretien enregistré la semaine dernière dans nos studios d'Issy les Moulineaux. Les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments passés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Sur tes joues, tu ne sais pas pourquoi tu pleures. T'as l'impression qu'on t'ignore. Quitter la fête avant la fin. Claquer la porte avec fracas. On ne s'inquiétera pas pour toi.
Son nom est celui d'une grande comédienne et rime avec celui d'un grand cinéaste, Robert Guédiguian, dans Gloria Mundi. Elle joue le rôle d'une femme qui va devoir se confronter à son passé, à un homme qu'elle a jadis aimé et qui revient la voir après avoir purgé une longue, longue peine de prison. Un rôle qui vous a valu le prix d'interprétation à Venise, Ariane Ascaride. Bonjour.
Bonjour.
Dans Gloria Mundi, vous êtes Sylvie. Vous travaillez sur les paquebots qui accostent chaque jour à Marseille. Vous faites le ménage dans les cabines. Le film souffre sur deux événements qui vont bouleverser votre vie. D'abord, la naissance de votre première petite fille, Gloria, qui donne son titre au film. Et puis, le retour d'un ancien amour, Daniel, joué par Gérard Mélan, qui sort de prison.
Doucement les oreilles.
Tiens, chérie, ça porte bonheur.
Sur les poches, ça attire l'argent.
Gloria, ça vient d'où?
D'un film qu'on a vu à la télé.
C'est très joli. J'ai beaucoup réfléchi. Je pense qu'il faut lui dire qu'il est grand-père. Si tu le fais pas, tu le regretteras.
D'être raison.
Je crois que ça va me faire plaisir de la voir, cette petite Gloria. Richard m'a dit qu'elle avait mes yeux.
Oui, c'est vrai. Ta fille et un grand-père, c'est normal qu'ils se connaissent, sans plus.
Il a tué les gens?
Non, il s'est défendu parce que sinon c'est lui qui y passait.
C'est un joli prénom, ça, Gloria. Et toi, tu travailles, Mathilda?
3 mois, je suis à l'essai. Puis après, je me ferai virer, comme d'hab.
Non, t'es libre.
Cette femme, Ariane Ascaride, Sylvie, c'est un beau personnage parce que, en fait, Sylvie, elle est un peu à la jonction de 3 temps. Il y a le présent, qui est la vie qu'elle s'est aménagée avec son compagnon, Jean-Pierre Darroussin. Il y a le passé, qui ressurgit avec Mélan. Et puis, il y a l'avenir, avec cette petite Gloria.
Fille, oui, absolument. C'est quelqu'un qui, en fait, c'est fur et à mesure des événements qui vont se passer dans le film qu'elle va se remémorer ou qu'elle va essayer de projeter. Parce que pour moi, c'était avant tout quelqu'un qui était dans le présent. Quelqu'un qui essaye de faire en sorte que les choses tiennent.
Que la famille tienne, que le travail tienne,
qu'il y ait assez d'argent, que tout le monde puisse être à peu près content, quoi, que puisse à peu près vivre.
Et puis tout à coup, il y a ce passé qui revient. C'est presque Robert Mitchum dans la grippe du passé. Non, c'est presque Sylvie, un personnage de film noir.
En tout cas, c'est un personnage très différent de toutes celles que j'ai pu jouer dans les films de Robert jusqu'à présent, parce qu'elle est très complexe. Pour moi, elle est opaque.
Qu'est-ce qui résiste chez elle?
Elle ne va parler qu'une fois. Mais sinon, elle ne dit jamais rien d'elle. Elle ne parle pas d'elle.
Mais elle ne se plaint pas alors que
elle
subit beaucoup de pression.
Elle se plaint pas du tout, elle fait. Elle est que dans le faire, tout le temps, dans le faire. Il y a juste une fois, elle va dire, au bout du compte, qu'il faut qu'on l'aide pour sortir de cette situation parce qu'elle dit, je ne veux pas que ça recommence. Et une autre fois,
je ne veux pas que ça recommence, c'est-à-dire
elle ne veut pas que recommence ce que elle, ce qu'elle a vécu.
Cette difficulté, à cette difficulté d'élever seule
sa fille, elle ne veut pas que sa fille. Voilà, elle ne veut pas que sa fille connaisse cette horreur, parce que quand même, je pense que c'était vraiment pas rigolo. Et il y a juste une autre fois où au petit bébé, elle lui dit, tu sais, il faut que je dorme, parce que si je dors pas, je ne peux pas travailler. Et si je ne peux pas travailler, je ne peux pas avoir de sous. Elle est tout le temps dans le faire. Tout le temps.
Et elle est tout le temps dans la survie. Ce qui frappe dans ce nouveau film, c'est qu'il est presque aussi sombre que La Villa était un film solaire.
Absolument.
Il est fait comme ça, ces films, Guédiguian, les uns contre les autres.
Je ne sais pas s'il les fait les uns contre les autres. Tout ce que je sais, c'est que je crois que... Enfin, moi, j'ai toujours dit que, en fait, le journal intime de Robert Guédiguian, c'est les films qu'il a fait. Si, en fait, on veut savoir comment va Guédiguian, on va voir un film. C'est pas compliqué. Le dernier film vous racontera comment il va. Il va pas très bien en ce moment. On va dire ça comme ça.
Et c'est la première fois que vous tournez, que Robert Guédiguian et toute la troupe, le Guédi clan, tourne à La Joliette, dans ces nouveaux quartiers de Marseille.
C'est ça, c'est
ça. Ça paraît incroyable. Vu le nombre de films que vous avez fait.
Ben oui, puis surtout, ce quartier, il a tellement changé en... C'est allé très vite, quoi, même pas 10 ans. Il l'a vu, ce quartier se transformer comme ça, et avec aussi un changement de population, les choses se mettent en place comme ça. Et aussi, c'est La Joliette, et aussi, c'est la Belle de Mai, avec ces autoroutes qui passent au milieu de la ville. Il y a des plans... On peut se dire que c'est, je ne sais pas, moi, au Brésil, à Sao Paulo.
On pourrait presque se croire à Hong Kong. On voit à un moment, il y a à plusieurs reprises des plans de ces grands immeubles.
Ouais, les tours qui
sont
construits. Sans
âme, dans lesquels votre personnage, Ariane Ascaride, fait le ménage aux petites heures du jour, mais sans rencontrer presque âme qui vive.
C'est ces dames qu'on croise quand on a oublié quelque chose dans son bureau, qu'on revient chercher une heure ou deux après la fermeture des bureaux. Et là, d'un coup, on croise ces dames invisibles.
Et ce territoire, ces nouveaux territoires de Marseille, c'est à l'image de ce que veut raconter Robert Guédiguian dans ce film, à savoir quand vous dites qu'il ne va pas très bien, bah, le monde qu'il décrit, il y a de consumérisme, d'exploitation des autres, c'est à l'image de ces nouveaux territoires déshumanisés.
Bah, tout à fait. En fait, je pense qu'il a voulu faire ce film comme un cri d'alerte. En disant, ça vraiment, je sais pas que je le pense, c'est que je le sais, il en a marre, quoi. Il en a vraiment marre. Et c'est vrai qu'on oblige toute une frange de la population aujourd'hui à vivre dans des conditions qui sont vraiment très difficiles et dans des quartiers qui perdent leur âme. Il y a juste un petit plan, il y a une petite séquence où Gérard Mélan et moi, on marche dans une rue qui est la rue de notre enfance, et où d'un coup, il remet en place, au niveau de sa mise en scène, un petit carrossier, des gars habillés en bleu, une cage à oiseaux, et du linge qui sèche à la fenêtre. Donc, c'est juste un renvoi comme ça d'où on sort, et où on est projeté, et maintenant où on est projeté, quoi.
Oui, paradoxalement, alors que le film, comme disait Sophie, est assez noir, il y a une forme de lyrisme, je trouve, dans sa façon de filmer Marseille. Alors, beaucoup de gens font le parallèle entre La Ville est tranquille et ce nouveau film.
Oui, c'est vrai.
Mais je trouve que ce lyrisme, dans la façon de filmer la ville, on l'avait jamais... Enfin, c'est inédit chez Guédiguian.
Ah ben, je suis complètement d'accord avec vous. Et même pendant qu'on le faisait, je me suis dit, peut-être c'est une histoire d'âge. Vraiment, je pense que quand on arrive à un certain moment de sa vie, on lâche des choses. Et là, il lâche... en fait, c'est un garçon très sentimental, mais qui est toujours, vous savez, un peu teuton, quoi, quand même. Il ne faut pas oublier sa culture. Et là, d'un coup, il lâche, parce que, en fait, tous ces personnages qui sont quand même des personnages un peu durs, quoi. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il montre qu'ils sont durs, mais que c'est pas leur faute. C'est par la situation dans laquelle ils sont plongés, qui vont chercher dans des manières d'être, dans des réactions qui sont avant tout très premières et qui ne sont pas des réactions qui passent par la réflexion.
Chacun a ses raisons dans ce film.
On est dans la survie.
L'objectif premier, c'est la survie.
Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? C'est Richard, mon père.
Mais Daniel, c'est ton père aussi.
Franchement, ça m'intéresse pas. Il va faire quoi ?
Mais qu'il la voit, moi.
Bah, et moi, il m'a vu ?
Il était en prison.
connais même pas. Tout ce que je me souviens, c'est le parloir pourri et l'hôtel qui pue à côté de la gare avec le train qui rentrait dans la chambre.
C'est pas la peine de te mettre dans cet état, c'est pas la lune. Ta fille a un grand-père, c'est normal qu'ils se connaissent, sans plus.
Mais non, bah son grand-père, c'est Richard, voilà, basta.
Mais Richard, c'est lui qui m'a poussé à le prévenir, moi j'hésitais.
Bah, tu vois, voilà, t'hésitais parce que t'avais pas envie, bah t'avais raison, moi non plus, j'ai pas envie.
Mais c'est pas la peine d'être méchante avec lui.
Il a tué des gens?
Non, non, il s'est défendu parce que sinon c'est lui qui y passait. C'est la fatalité.
La conversation fille-mère, hein, Anaïs de Moustier et vous, Ariane Ascaride. Et donc la question, effectivement, c'est de savoir qui est le père d'Anaïs de Moustier. Mais... est-ce que c'est Jean-Pierre Darroussin qui l'a élevé? Ou est-ce que c'est son géniteur, Gérard Mélan?
Ah oui, mais c'est toujours la même question, hein, vous savez. Et même après, un peu plus loin, Jean-Pierre Darroussin, le personnage de Jean-Pierre, va dire bon, les liens du sang, ça veut rien dire. En fait, c'est les deux, mon capitaine, je dirais.
Ouais, c'est Marius de Pagnol, hein.
C'est les deux. Oui, absolument. C'est les deux, mon capitaine.
C'est la première fois que la paternité, elle est à ce point au cœur d'un film de Robert Guédiguian.
En fait, si vous regardez, je vous renvoie à La vie à la mort. Et vous verrez que dans À la vie à la mort, moi, dans le personnage que je joue dans À la vie à la mort, veut absolument avoir un enfant. Or, mon mari ne peut pas me faire d'enfant. Donc, je vais demander à un personnage que joue Jean-Pierre Darroussin de me faire un enfant. Et il va y avoir toute une séquence que où Jacques Boudet va dire « Mais la paternité, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est celui qui élève. » Et on ne sait jamais si on est vraiment le père. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est celui qui s'occupe. C'est tout.
Je vous entends parler des films que vous faites avec la même troupe depuis les années 80.
80.
Hein, Mélan, Darroussin,
Boudet,
et puis les nouveaux venus comme par exemple
Anaïs,
Le Prince Ringuet, Anaïs de Moustier, etc.
Et Lola,
vous êtes fière de ça? C'est une vie qui s'est tracée à travers les films.
Voilà, vous venez de dire absolument le mot. Alors je ne sais pas si j'en suis fière, c'est ma vie. C'est juste ma vie. Mais c'est ma vie comme je l'avais... Ça, c'est ce que j'ai voulu. Des fois, dans la vie, on subit, on réagit par rapport aux événements. Ça, c'est ce qu'on a voulu. Et
vous voulez dire dès le départ? Alors, de tourner avec les mêmes...
on ne pouvait pas le penser. Dès le départ, on ne savait pas qu'on allait faire ça comme ça. Mais quand on a commencé, il y avait tellement personne qui voulait de nous. C'était quand même plus simple de travailler entre amis. Vous voyez? Parce que personne n'avait envie de travailler avec nous. Il y avait juste nos copains. Donc, on travaillait avec nos copains. Et puis après... bien longtemps après, ça s'est mis à marcher. Je vois pas pourquoi on aurait laissé tomber nos copains. Et ce qui est génial, c'est que nos copains nous ont pas laissé tomber non plus. Donc c'est un truc, ça prouve que quand on est ensemble, c'est mieux que quand on est tout seul.
Mais à tel point que quand Robert Guédiguian écrit un nouveau scénario, c'est inimaginable de ne pas avoir de rôle, par exemple, pour vous, Ariane, Darroussin ou Mélan.
Oui, mais le prochain film que fait Robert Guédiguian, il y a aucun de nous.
Oh là, ça, c'est un scoop.
on n'est pas là du tout, du tout. Et il va faire un film en Afrique. Et il n'y a que des jeunes acteurs africains. Voilà, des jeunes et des moins jeunes, mais on n'est pas là.
Ça, c'est quelque chose. Hein.
Et je crois que... Enfin, moi,
la
je trouve ça
fort.
Il avait fait Le Promeneur du Champ de Mars. On n'était pas là non plus. Et moi, je suis très, très, très heureuse qu'il aille faire ça. Je crois que ça lui met une pression assez costaud. Mais et en ça, j'aime bien cette envie de se remettre un peu en danger. Et en plus, c'est un très beau scénario, c'est une très belle histoire. Donc voilà.
Donc, à peine a-t-il terminé de sortir ce nouveau film, Gloria Mundi, que Robert Guédiguian part sur un nouveau projet.
C'est un obsessionnel, il est fou, vous ne le savez pas qu'il est fou. Il est complètement fou. Et comme ça, il ne peut pas faire autre chose que faire du cinéma.
Ariane Ascaride, on parlait tout à l'heure de la noirceur du film. Mmh. Et c'est vrai que votre personnage, Sylvie, est un personnage, je ne dirais pas négatif, mais c'est quelqu'un qui a renoncé au collectif.
Complètement.
Alors justement, tout à l'heure, on parlait du collectif de la troupe Guédiguian. Elle a, c'est la définition marxiste du lumpen prolétariat, en fait. C'est-à-dire qu'elle va trahir sa classe.
Sans en être complètement consciente de ce qu'elle est en train de faire. Mais je crois que c'est aussi représentatif un peu de l'état dans lequel vivent les gens qui sont dans des difficultés financières et des difficultés de travail aujourd'hui. Et ça fait 30 ans qu'on dit aux gens « pensez tout seul, pensez pas collectif quand même ». Faut pas oublier ça. On a dit « devenez propriétaire », on a dit « devenez auto-entrepreneur, allez donc ». Et en fait, tout le monde se retrouve dans la mouise aujourd'hui. Et quand on se retrouve dans la mouise, on se dit il faut survivre. Et c'est pas vivre. Survivre, c'est aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est manger, dormir, avoir un toit. Et donc, dans ces cas-là, quand on n'a pas effectivement une culture politique, parce que je pense qu'elle n'a jamais eu de culture politique, et d'autant plus qu'elle, elle a déjà connu la survie. Vous voyez? Et là, d'un coup,
en
c'est comme.
En élevant sa fille toute seule.
Et il y a comme, comme une piqûre de rappel, et là, c'est pas possible.
Elle se dit elle, plus jamais ça.
Plus jamais ça.
Par contre, les deux filles, donc ça veut dire que pour les deux filles qui, elles aussi, sans trop entrer dans les détails et déflorer le film, mais sont assez peu sympathiques, il y en a une, entre autres, qui fait de l'argent en exploitant la misère des gens, parce que les gens viennent
bien sûr,
elle leur achète à vil prix des objets. C'est une noirceur, c'est le regard de Guédiguian sur le monde.
Non, je pense pas que c'est le regard de Guédiguian sur le monde. Je pense que quand on fait une œuvre artistique, il faut de temps en temps exagérer les choses. Il faut aller plus loin que la réalité. Parce que c'est ça, c'est la transcendance de la réalité qui est important. C'est ça, une œuvre, à mon sens. Donc, il pousse un peu le curseur un peu plus loin. Mais je pense que ces deux filles ont été élevées. Alors, d'abord, il y a un petit problème entre les deux sœurs.
Elles n'ont pas le même père.
Elles n'ont pas le même
géniteur,
père,
je veux dire.
Le même géniteur. Et elles ne se sentent pas aimées les deux de la même manière. Voilà. C'est comme ça, c'est diffus, on n'en fait pas un fromage, mais c'est là. Et il y a on prend ce que vous propose aujourd'hui la télévision ou des choses comme ça. Hein. C'est-à-dire que quand... alors, je vais peut-être faire ringarde, mais quand... des tas de jeunes gens regardent une télé-réalité qui s'appelle Les Marseillais, vous voyez, qui a quand même un truc qui est, si j'exagérais, je dirais, qui est pour moi une espèce de fascisme. Voilà, j'ai pas d'autre mot, parce que les propositions qui sont faites, parce que ce sont des personnages, au fond, tout ça est scénarisé, ce que vous voyez dans ces gens qui sont enfermés dans une villa et tout ça, ça ne va chercher que dans des réactions premières, individuel, sans âme, sans bienveillance, et tout le monde est là à se fendre la gueule, quoi. Et ben moi, je... Voilà. Alors, quand vous regardez des choses comme ça à la télévision, vous vous en rendez pas compte, ça rentre dans votre tête, et puis vous vous dites, ah ben c'est peut-être ça la solution, que j'aille faire Koh-Lanta, que j'aille faire Les Marseillais, ou que j'aille passer... Et non pas, qu'est-ce que je suis moi, qu'est-ce que je veux moi, qu'est-ce qui m'intéresse, de se repositionner. Donc, on vous traite mal. Et quand on vous traite mal, vous ne pouvez pas avoir des attitudes glorieuses.
C'est le consumérisme. À plusieurs reprises, on les voit marcher dans un centre commercial. Et puis, il y a évidemment toujours, chez Guédiguian, un propos politique. Parce qu'il y a un personnage, un des jeunes personnages, à un moment, qui dit « Moi, je suis un premier de cornée ».
Eh ben, c'est volontaire.
Une référence au propos d'Emmanuel Macron.
Ben, oui, mais c'est une chose qu'on a entendue, non ? La population française a entendu ça. Il fallait être un premier de cordée. Qu'est-ce que ça veut dire être un premier de cordée ? Quand on n'a pas fait de grande école, quand on n'a pas un rond, quand on n'a pas des parents qui peuvent vous aider. Ça veut dire quoi être un premier de cordée ? Ça veut dire marcher sur la tête des autres ? Alors on nous dit que ça veut dire tirer les autres. Moi, j'entends plutôt que ça veut dire marcher sur la tête des autres.
Et dans ces personnages, c'est surtout quand même les jeunes gens, les jeunes personnages qui incarnent cet individualisme forcené. Mmh. Même si Sylvie, évidemment, votre personnage, Ariane Ascaride, refuse à un moment la lutte collective. Il y a un conflit de génération dans ce film.
Je ne sais même pas si c'est un conflit de génération. Je ne sais même pas si on en est là, vous voyez. Parce que les jeunes gens ne sont pas revendicatifs, ne nous remettent pas en cause. Ils disent juste, nous, on va s'en sortir autrement. Donc c'est pas un conflit de génération, c'est plutôt comment nous n'avons pas su, nous, nos personnages, transmettre. Mais qu'est-ce qu'on transmettait ? Parce que déjà on commençait à essayer de s'en sortir. Donc on n'a pas d'esprit, on n'est pas des politiques, quoi. On n'a pas des attitudes de syndicalistes ou des choses comme ça. On essaie juste de s'en sortir, d'accord ? Comment voulez-vous que nos enfants, ils sont héritiers de rien ? Donc, ils sont comme la société de consommation leur demande d'être. Et donc, ils récupèrent des discours, ce que dit souvent Robert, c'est quand les dominés se mettent à parler le discours des dominants. Et c'est ça qui se fait. Donc, je veux dire, tous les jeunes gens qui travaillent avec un Uber et qui croient être leur propre patron se font berner complètement. Ils font des heures absolument épouvantables, mais ils ont l'impression d'exister. Parce que le problème aujourd'hui dans la société dans laquelle on est, c'est est-ce qu'on existe ou est-ce qu'on n'existe pas ? Et vous devez exister en fonction de schémas bien précis. Si vous n'êtes pas dans ces schémas-là, vous êtes inexistant.
Alors dans le film Ariane Ascaride, on a beaucoup dit que c'était un film sombre. Ce qu'on a moins dit, c'est qu'il y a aussi deux figures, au moins, qui sont très solaires. C'est la naissance de cette petite Gloria, qui ouvre le film d'une façon magnifique. C'est aussi un hommage au grand cinéaste arménien Pelléchian. Et puis, il y a le personnage de Gérard Mélan.
C'est un ange.
C'est une figure sacrificielle aussi, comme si Robert Guédiguian avait le sens du tragique très fort.
Ah oui, non, mais je pense que vraiment, c'est ça.
Il n'est pas seulement teuton, hein.
Non, non, il est aussi très sacré.
Très relié à ses racines grecques.
Ouais, il est très, très sacré. En fait, il y a du sacré chez Guédiguian. Et là, ce coup-ci, il a lésiné sur rien. Et du coup, c'est ce personnage qui est quand même a été en dehors du monde pendant 25 ans, puisqu'il était en prison. Et d'un coup, qui revient dans le monde et qui regarde. Parce qu'il parle peu, mais il regarde. Et je pense que c'est celui qui nous apaise, en fait. C'est le personnage qui apaise le spectateur, qui rassure le spectateur, parce qu'effectivement, il va devenir sacrificiel et qu'on a besoin de ça,
Et puis c'est un poète aussi, il écrit des haïkus, petits poèmes.
Ben Robert s'était dit qu'un homme qui parlait si peu ne pouvait pas écrire de grandes poésies, il ne pouvait écrire que des haïkus, et ça aussi... Vous savez, il y a toujours cette proximité entre Gérard Mélan et Robert Guédiguian. En fait, Gérard Mélan, c'est Robert Guédiguian. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et les haïkus, c'est quelque chose que Robert Guédiguian adore.
Il en écrit lui-même ?
Et il en écrit lui-même.
Donc c'est sa main, c'est les poèmes.
Bah, il y en a, oui.
Vous y croyez au destin ? Parce que le personnage de Gérard Mélan, c'est presque, c'est presque une figure
bien sûr,
mythique. Hein.
Oui, bien sûr. Oui, moi, j'y crois au destin. Oui, alors là, je vous dis, vous savez, je suis une fille du bord de la Méditerranée et je suis très, très, très là-dedans, très dans cette culture et le destin, j'y crois. Mais par contre, je ne sais pas du tout comment il va bouger le destin, mais j'y crois.
Quand vous avez rencontré Robert Guédiguian, vous vous doutiez, par exemple, que vous feriez 19 films ensemble ?
Pas du tout. Je m'imaginais même pas que j'en ferais un, parce que quand je l'ai rencontré, il faisait pas du tout du cinéma.
Hein. Ouais, c'est ça, il paraît que c'est de votre faute, en fait.
Ouais, c'est ça, ce qu'on dit. On dit que c'est de ma faute.
C'est
oui.
vrai ?
Je ne sais pas si c'est de ma faute, mais je pense que je suis un peu intervenue sur l'histoire parce que moi, je voulais être comédienne et voilà. Et j'ai fait le premier film que j'ai fait, c'était un film de René Ferré qui s'appelait La Communion solennelle. J'étais pas encore entrée au conservatoire, puis après, je suis entrée au conservatoire. Et puis, ce film est allé à Cannes. René Ferré avait emmené toute la distribution à Cannes. C'était un temps où on montait les marches de Cannes. En chantant ou La Jeune Garde ou Bella Ciao ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est il y a très longtemps. C'est un temps qui n'existe plus du tout. C'est une époque qui révolue. Et puis, c'est bien entendu avec Robert. Et puis, il avait envie de faire une adaptation d'un roman de Alfred Döblin. Et comme Robert parlait allemand, il a commencé à lui demander s'il pouvait pas travailler avec lui. Et puis voilà. Et puis, de l'autre côté, Robert venait me chercher au conservatoire. J'étais en classe avec Jean-Pierre Darroussin. Enfin, tout ça s'est fait, Oui, c'est le destin, là, si vous voulez. Absolument, c'est le destin.
C'est le destin qui se fait sans qu'on y pense.
Je crois qu'il faut jamais y penser, parce que sinon, ça marche pas.
Quand on est la compagne d'un cinéaste, chaque fois qu'il vous offre un nouveau rôle, est-ce qu'il y a un petit vertige? Est-ce qu'on se dit, tiens, il a peut-être vu ça chez moi? Ou alors on se dit, non, c'est une pure œuvre de fiction?
Non, on se dit ça. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, les choses qu'il a vues chez moi ne sont pas dans mon personnage, sont dans les autres personnages. Par exemple, dans Marius et Jeannette, le personnage que jouait Frédéric Bonal dit des répliques que j'ai dit, moi, dans la vie. Mais pas du tout mon personnage à moi. Mais
donc c'est un vrai jeu de piste.
Oui, c'est des jeux de piste. Il s'amuse avec des choses comme ça. Et effectivement, mais c'est pas qu'avec moi. C'est-à-dire que entre les films, on parle, on se voit. Parce que c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'on se voit toujours. On se retrouve pas pour faire des films.
Vous dites avec Jean-Pierre Darroussin, Gérard Mélan.
Bien sûr. Donc on, ben voilà, c'est une vie où on est toujours très attentifs les uns aux autres.
Le cinéma est un moment de la vie.
Voilà. Fut un temps, Robert appelait ça nos universités d'été, parce qu'on tournait qu'en été, parce que nos enfants étaient petits, donc on emmenait nos enfants sur le tournage pour qu'ils restent avec nous, et on tournait que l'été. Et donc, c'était la manière de faire le point, et ça continue. C'est une manière de faire le point par rapport à des discussions qu'on peut avoir quand on va manger chez l'un ou chez l'autre, et puis, hop, après, je sais pas comment il fait ses trucs dans sa tête, j'en sais rien, je veux pas le savoir d'ailleurs, et voilà, puis il y a un scénario qui arrive.
Aujourd'hui, comment vous avez l'impression qu'il vous regarde, Guédiguian?
Il y a une chose qu'il m'a dit il n'y a pas longtemps, et ça fait pourtant très longtemps qu'on vit ensemble. Et ça m'embête un peu parce que je trouve pas ça très bien. Il m'a dit je t'admire. Et moi je veux pas. Je veux pas qu'il m'admire. Je veux juste qu'on continue à faire des choses ensemble. Je ne suis pas admirable. Je sais pas ce qu'il... Je vous dis, il vieillit mal.
Qu'est-ce
quoi,
qu'il
parce
lui a pris?
Il y a un truc, je comprends pas ce qu'il a. Mais je me rends compte, en venant parler de ce film aujourd'hui, que beaucoup de gens, beaucoup de personnes pensent maintenant à nous tous les deux ensemble. C'est-à-dire sur un parcours, sur une œuvre, sur des choses comme ça. Effectivement, ça me fait extrêmement plaisir. Mais lui, c'est lui, moi, c'est moi. Et nous faisons des choses ensemble. Mais notre vie, c'est autre chose. Vous voyez? Mais je pense qu'effectivement, on a eu des correspondances, on a... comment dire? Ce que je dis tout le temps sur les plateaux, que ce soit avec Gérard Melon, que ce soit avec Jean-Pierre Darroussin, Robert ne nous dit rien. On se regarde et on tourne. Et on se regarde. Et je ne dis rien à Jean-Pierre Darroussin ou à Gérard Melon non plus quand on joue ensemble. Et ben dans la vie, c'est un peu pareil. Quand on est dans des soirées, même si on est très loin l'un de l'autre, on se regarde et on sait exactement ce que pense l'autre. C'est le fait de vivre depuis très très longtemps ensemble, ça.
Je ne sais pas si vous avez remarqué Ariane Ascaride, mais en parlant de ça, justement, on n'ose plus dire Ariane Ascaride, la muse,
ah non,
Robert Guédiguian,
mais parce que j'ai tellement dit que
l'inspiratrice, c'est pas plus mal, non?
C'est très bien parce que j'ai tellement hurlé là-dessus.
Ah oui?
Ah oui, parce que je ne suis pas la muse du tout, je suis la complice. Je disais à un moment donné qu'on était une association de malfaiteurs. Dans une association de malfaiteurs, quand on fait un hold-up, tout le monde a un rôle très très défini, parce que sinon le hold-up ne marche pas. Et ben voilà, quand on fait des films, chacun a un rôle très très défini.
Ah, et alors vous êtes qui?
Ah bah moi, je suis celle qui joue. Je suis celle qui fait croire que l'histoire existe. C'est celle qui incarne, comme Gérard ou Jean-Pierre. Mais la muse, non, non, je pense que je ne l'ai jamais inspirée. Non. Enfin, ou alors, comme Gérard ou Jean-Pierre, vous voyez, mais... Et puis une muse, c'est une pauvre fille, quand même. Hein.
C'est très passif.
Bah oui, une muse, c'est une pauvre fille. Elle est juste parce qu'elle fait des trucs, mais...
Elle existe parce qu'on la regarde.
Parce qu'on la regarde. Donc, non, non, moi, je pense. Je pense et je parle. Donc, je ne suis pas une muse.
Et puis on peut le confirmer, hein, ceux qui parlent de moi. Merci Ariane Ascaride,
merci à vous
d'être venue nous parler de Gloria Mundi, donc un film formidable qui vous a valu à Venise la coupe Volpi de la meilleure actrice. Vous l'avez mise où, la coupe Volpi, chez
sur
vous?
Sur le buffet. Elle est vraiment très grosse et on dirait plutôt une coupe de foot.
On ne voit qu'elle.
Alors j'ai essayé de la mettre entre des trucs où on la voit un peu parce que quand même... Ça me fait plaisir, mais pas que ça, quoi. Voilà.
Merci Ariane Ascaride. Donc Gloria Mundi, une histoire de famille à Marseille où vous êtes entourée de toute la troupe Guédiguian, Gérard Mélan, Jean-Pierre Darroussin, Lola Neymarck, Robinson Stévenin et Anaïs de Moustier. Et puis ceux qui ont la chance de vivre à Paris peuvent vous voir au théâtre en ce moment même.
Oui, je suis au Lucernaire jusqu'au 24 novembre avec Il y aura la jeunesse d'aimer qui est un spectacle lecture que je fais avec un monsieur que j'aime beaucoup et qui est un très bon metteur en scène, qui s'appelle Didier Bezaz. Et ce sont sur des textes de Louis Aragon et Elsa Triolet. On n'en sort pas.
Voilà, tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin.
Et Elisabeth Le Quéré. À la réalisation, Fanny Renard et Ludivine Amado.
Rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale consacrée à la place des femmes dans le cinéma français, devant et derrière la caméra, bien sûr, avec le collectif 50-50. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
Tous les cinémas du monde.
Appelez-nous, exprimez-vous.